Au bout du jour, ce soir, double témoignage sur la situation de plus en plus difficile et précaire au Burundi, un pays frappé par la pandémie bien sûr, une crise socio-économique, mais aussi une crise politique profonde en ce que le régime du nouveau président, qui veut à tout prix se prolonger, met en prison des journalistes, met en prison des défenseurs des droits de l'homme au point que les opposants fuient. Nous recevons l'un de ceux-ci ce soir accompagné de maître Bernard Minguin.
La première,
19h-20h,
au bout du jour,
Eddy Kakelbergs.
Eh bien messieurs, bonsoir, merci de nous avoir rejoints pour faire le point sur un pays qui, il faut bien le reconnaître, quand il fait parler de lui ces dernières années, c'est en général parce qu'il y a une situation plus que difficile qui s'y déroule. Ce pays, c'est évidemment, on l'a dit, donc le Burundi. Peut-être un point d'abord avec vous, Bernard Minguin, avant d'accueillir votre collègue Vital Nshirimirimana, qui est avocat également. Les informations sont contrastées. On dit à la fois qu'il y a une grâce présidentielle pour 40% des détenus, et d'un autre côté, on voit que même, par exemple, les Nations Unies pour les réfugiés disent la situation est désastreuse.
Moi, je me place au niveau judiciaire, au niveau de l'exercice de mon métier. Et on sort pour l'instant, par exemple, à la fois d'un mouvement de séduction et de danse du ventre entre l'Union européenne et le Burundi. Et en même temps, dans le même moment, il y a une décision de la Cour suprême qui a pour conséquence de saisir la totalité des biens des 34 plus grands activistes et notamment de militants des droits de l'homme, de gens de la presse, etc., qui est signifié avec la menace maintenant de saisie complète de ces biens. C'est un exemple parmi d'autres qui vous montre que c'est un jeu très très contrasté entre d'une part une grande activité diplomatique sur laquelle on n'a pas d'observation à faire, elle est là, et de l'autre, des mécanismes non seulement d'intimidation, nous avons encore toujours un certain nombre de faits qui sont documentés et qui sont rapportés d'ailleurs par les organisations dont Vital est un des représentants, mais aussi nous voyons qu'on ne dessert rien au niveau judiciaire et que dans toute la région, les discours de haine se propagent. Voilà, c'est une situation très compliquée et on a parfois l'impression que la communauté internationale agit en la matière sans prendre toujours toute la mesure de ce qui se passe.
Déjà, ce premier constat étant établi, je vous souhaite le bonsoir. Évidemment, Vital Nshirimirimana, vous êtes avocat, vous êtes réfugié en Belgique, militant et activiste des droits de l'homme. Est-ce que ça veut dire que ce type d'exercice de militance, vous ne pouvez plus du tout le faire au pays? C'est trop risqué?
C'est trop risqué, mais aussi c'est qu'aujourd'hui, les collègues qui s'évertuent à informer en ce qui concerne les violations des droits de l'homme qui se passent sur le terrain sont persécutés quotidiennement. Et aujourd'hui, la liberté de la presse, la liberté d'association et de l'union pacifique sont complètement bafouées par le régime. Je souligne que depuis 2015, plusieurs organisations, y compris celles que je dirige, ont été progressivement du paysage burundais parce que les organisations ont été d'abord suspendues, puis irradiées. Les cinq principales organisations de défense des droits de l'homme ont été irradiées aujourd'hui, n'ont pas droit de travailler sur le terrain. Il y a aussi les médias indépendants qui ont été incendiés le lendemain d'un coup d'État manqué de mai 2015. Et à partir de ce moment, nos collègues qui sont sur le terrain vivaient dans la peur. D'ailleurs, en 2019, quatre journalistes du journal Iwacu ont été arrêtés, détenus pendant plus d'une année, rien que pour avoir essayé de couvrir un événement concernant une attaque armée qui se déroulait à l'ouest du Burundi. Donc, dans ce contexte, le travail de défense des droits de l'homme est extrêmement compliqué. Je souligne aussi qu'en militant des droits de l'homme, Germain Rukuki passe aujourd'hui plus de 4 ans en prison. Il a été condamné à 32 ans de prison, ce qui est une condamnation inédite et qui fait peur à l'ensemble de la communauté des défenseurs des droits de l'homme au Burundi.
Maître Nshimirimana, je parlais de cette grâce présidentielle en fait pour 40% des détenus du pays, sauf précisément les détenus politiques. La grâce présidentielle ne s'applique qu'aux détenus de droit commun.
Bon, on a vu une grâce qui a été annoncée depuis novembre de l'année passée. D'ailleurs, nous sommes déjà habitués avec des présidents de la République qui, quand ils viennent au pouvoir, annoncent ce genre de mesures. Ce qui est vraiment contraire à ce qui s'est passé auparavant, c'est que les mesures qui étaient annoncées étaient exécutées sans délai, mais la mesure qui a été annoncée en novembre et dont le décret qui le confirme a été signé au mois de mars n'est pas toujours exécutée. Donc on ne sait jamais si les 40% vont bénéficier de cette mesure de grâce parce qu'on ne voit pas ce qui traîne à accorder la liberté pour ces détenus qui ont été graciés.
Oui, mais manifestement, de toute façon, l'autorité présidentielle semble ne pas vouloir s'intéresser aux prisonniers politiques. L'opposition politique restera en prison.
Là, le constat est clair. Le constat est clair parce que quand nous avons vu le décret qui porte sur la grâce présidentielle, on a lu que l'auteur a essayé d'extirper les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion, de sorte que c'est uniquement les prisonniers de droit commun qui sont concernés par cette mesure de grâce présidentielle. Une façon de désengorger les prisons et pour peut-être, encore une fois, continuer à arrêter de tenir les voix discordantes.
Maître Nchimiriman, vous avez évoqué cette date de 2015 qui semble être effectivement un nouveau tournant, basculement pour le pays. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés dit qu'à partir de là, c'est effectivement lorsque le président annonce vouloir briguer un troisième mandat, c'est la violence. Et ce sont alors, vous le confirmez sans doute, des centaines de milliers de personnes qui fuient le pays et qui se réfugient dans les pays environnants.
Et justement, jusqu'à présent, il y a toujours plus de 230 000 personnes qui sont réfugiées dans la région, rien que dans la région, sans compter ceux qui se sont réfugiés dans d'autres parties du monde. Et puis, encore une fois, c'est un signe que rien ne va au Burundi parce que quand on compare avec les situations antérieures, lorsqu'il y avait un changement de régime, on voyait les réfugiés rentrer massivement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'ailleurs, les réfugiés burundais en Tanzanie subissent une persécution inouïe de la part du gouvernement tanzanien en collaboration avec les services secrets burundais, les miliciens Imbonerakure qui s'introduisent pour les pourchasser. Et il y a un communiqué des experts des Nations Unies qui est sorti le 13 courant qui confirme, qui répète, plutôt moi je répète ce que le communiqué des experts a dit.
Maître Minguin, il faut bien en passer par là. Comment qualifier l'actuel régime? Parce que le Burundi a connu évidemment depuis 20 ans des successions présidentielles, mais qui semblent toutes se finir dans une grande violence. Comment qualifier ce régime?
Alors écoutez, moi j'ai une tradition qui est de ne pas me positionner sur les questions politiques, mais uniquement sur les questions juridiques. Mais sur le plan juridique, le point de départ, le point majeur de la crise, c'est qu'en 2015, lorsque il y a eu le débat sur le troisième mandat, les juristes majoritairement estimaient que la présentation d'une nouvelle candidature était illégale. J'ai moi-même, à l'époque, accueilli le vice-président de la Cour suprême qui m'a expliqué les conditions dans lesquelles des pressions étaient exercées sur les membres de la Cour pour essayer de faire valider cette demande de troisième mandat. Donc je crois qu'on est dans un système qui a déraillé sur le plan juridique, qui continue à dérailler. Et donc, la vraie question aujourd'hui, parce qu'aux dernières élections, il y a eu pas mal d'observateurs qui ont pensé que, vu l'importance des mouvements de foule en faveur de l'opposition, c'était une façon de marquer sa distance vis-à-vis des autorités. Mais en tout cas, je crois que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de revenir progressivement et simplement à une organisation démocratique des élections, à un pouvoir représentatif, comme c'était inscrit d'ailleurs dans les accords d'Arusha.
Il faut bien reconnaître, cela dit Maître, que dans la sous-région, mais aussi plus largement d'ailleurs dans la partie subsaharienne de l'Afrique, voire même dans le Nord, cette tentation de vouloir s'accrocher au pouvoir, de modifier l'ordre constitutionnel et de multiplier les mandats devient presque la norme.
Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas ça qui m'inquiète le plus. Ce qui est en fait le plus important, finalement, c'est la voix du peuple. Moi, j'ai toujours dit, ce qui est, devrait être l'enjeu, c'est respecter l'ordre constitutionnel et deuxièmement, que les voix exprimées au titre du suffrage universel soient entendues et soient respectées. Or, dans une situation comme l'État burundais, on s'est retrouvé avec à la fois une torsion terrible vis-à-vis de ce qui était la base juridique même des accords qui pacifiaient le pays, et d'autre part, une crise majeure de l'adhésion de la population à son pouvoir politique. Et donc là, il y a un travail à effectuer et qui n'est pas simple. Et je salue d'ailleurs le sens des responsabilités de ceux qui s'appellent activistes des droits de l'homme, parce que quelque part, ils essayent à leur niveau de voir les voies et moyens pour ramener la société vers plus d'expression démocratique et plus d'ordre constitutionnel.
Maître Nshimirimana, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour le peuple burundais resté au pays, dès lors qu'il y a aussi la pandémie qui frappe d'une manière ou d'une autre, qu'il y a d'autres problèmes sanitaires, qu'il y a des problèmes aussi socio-économiques? C'est un pays qui ne croule pas sous la richesse et c'est une population qui n'est pas forcément en bonne santé.
Oui, des gens qui disent que le Burundi, c'est une prison à ciel ouvert, n'exagérez pas d'abord, parce que au Burundi, on peut être arrêté, détenu plusieurs mois, plusieurs années, rien que pour s'être exprimé en défaveur d'une politique nationale, juste pour avoir exprimé une position. Je ne connais pas une autre situation où un ancien député, par exemple, nous avons un député, Fabien Banchiganino, qui a été aujourd'hui arrêté, détenu, rien que pour avoir critiqué, s'être opposé contre la volonté de donner un titre de guide suprême du patriotisme à l'ancien président Pierre Nkurunziza. Et aussi, je souligne que le Burundi est un pays fortement militarisé, parce qu'il est dirigé par une junte militaire en tenue civile, parce que président de la République, premier ministre, président de l'Assemblée nationale et tous les hauts responsables sont tous de la même obédience politique et ethnique et aussi sont des militaires. Mais aussi, à côté de ça, il y a une milice forte d'à peu près une centaine de milliers de jeunes qui quadrillent le pays et qui contrôlent et surveillent tout mouvement. Et en pareille circonstance, à côté de ça, le Burundi vit au rythme d'un populisme inouï. D'ailleurs, avant la mort du président Pierre Nkurunziza, il se moquait de ceux qui portaient le masque à des occasions comme la fête du 1er mai, et lui-même qui aurait succombé à cette pandémie. Mais jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui meurent effectivement à cause de la pandémie, parce que le gouvernement ne prend pas des mesures adéquates pour lutter contre la propagation de cette pandémie.
Ça veut dire aussi, maître, que l'on ne peut pas parler d'un climat de pré-guerre civile ou de guerre civile latente, dès lors que la population est non seulement hyper surveillée et hyper brimée, mais dans une situation sans doute sociale et sanitaire qui ne lui permettrait probablement pas de se rebeller.
Mais jusqu'à présent, il y a des groupes qui ont essayé de se rebeller contre le gouvernement. Il y a deux mouvements armés qui ont mené des attaques sporadiques contre le gouvernement. Mais à côté de ça, tout le reste de la population s'est tu. Les intellectuels, l'opposition n'existe quasiment plus. Et nous pensons que la terreur qui est exercée sur le peuple a pour conséquence qu'il y a une naissance à long terme d'un conflit politico-ethnique.
Un risque génocidaire, comme on l'a connu chez vos voisins.
De toutes les façons, il y a des pratiques, il y a une idéologie génocidaire qui prévaut, mais aussi des pratiques d'exclusion ethnique et politique qui existent depuis et l'adoption de la Constitution de 2018 qui a écarté l'accord d'Arusha pour appel à la réconciliation, qui avait facilité la réconciliation du peuple burundais.
Bernard Minguin, ça pose immanquablement quand même la question, vous parliez d'intense activité diplomatique, ça pose la question de la réaction des capitales évidemment, et dès lors aussi de notre coopération. Si l'on constate, et nul ne peut être aveugle, l'état de ce que l'on vient d'entendre, alors comment peut-on expliquer que l'on semble ne pas protester dans nos capitales, ou voire même aux Nations Unies? On lit aussi que le bureau de l'ONU fermera finalement le 31 mai prochain.
Oui. Mais écoutez, on vit un moment, vraiment un vrai momentum au niveau diplomatique et politique, puisque l'Union européenne, par la voix de son ambassadeur à Bujumbura, annonce qu'on va revenir à une normalisation des relations. Et l'on voit une intense activité diplomatique qui veut que notre ministre des Affaires étrangères, dans quelques jours, va recevoir une délégation de haut niveau du Burundi. Mais alors, face à ça, moi j'ai quelques questions à poser. Je prends mon confrère Armel Nyongueré qui lutte avec nous devant la Cour pénale internationale, qui a été radié du barreau à Bujumbura, qui a été condamné à une peine de prison à vie parce qu'il lutte avec nous devant la Cour pénale internationale, qui a été fait l'objet d'une mesure de saisie de tous ses biens. Est-ce que demain, notre ministre des Affaires étrangères, est-ce que demain, les autorités de l'Union européenne vont lier la normalisation à la normalisation de la position des défenseurs juridiques qui sont devant la Cour pénale, qui sont inscrits aux avocats au barreau de la Cour pénale et qui ont des mandats pour plus de 2000 familles de victimes de crimes qui jusqu'à présent peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité devant la CPI. Et j'ajoute, j'ai encore une autre question pour les gens qui veulent rechercher ainsi des rapprochements à une vitesse qui me paraît surprenante. Imaginez que dans 6 mois, dans un an et demi, la Cour pénale délivre des mandats d'arrêt au terme de ces enquêtes. Question que je pose, est-ce qu'aujourd'hui, les autorités qui veulent normaliser les relations avec le Burundi vont être d'accord demain d'exiger qu'il n'y aura pas de normalisation si le jour où des mandats sont délivrés, on ne livre pas à la justice internationale les personnes sous mandat? Voilà une question cruciale au niveau de l'état de droit. Si des mandats sont délivrés, est-ce qu'on arrête les auteurs de ces mandats ou bien est-ce qu'ils resteront confortablement installés à Bujumbura? Que dit la diplomatie internationale par rapport à cette exigence judiciaire et dans le cadre des crimes les plus graves, ceux qui sont sanctionnés au titre de crimes contre l'humanité?
Pour l'instant, c'est silence radio.
Pour l'instant, nous voyons cette danse du ventre entre les capitales. Et je précise que, bien entendu, toute évolution sociale et politique et de retour à l'état de droit, on sait que ça se fait par petits pas. On sait que ça se fait de façon progressive. Je n'ai pas la prétention de vouloir bloquer cela, mais qu'on le fasse intelligemment, c'est-à-dire en prenant en compte la mesure de ce que sont de vrais progrès et non de ce que sont des discours de façade sur des feuilles de papier que des diplomates signent.
Des effets d'annonce. À cet égard, Maître Nchimirimana, la question peut sembler évidemment délicate, mais quel est l'intérêt pour les capitales occidentales, particulièrement pour une normalisation avec le Burundi? Qu'est-ce que le Burundi nous apporte?
Quand je regarde le Burundi par rapport d'abord à la région de l'Afrique de l'Est, c'est d'abord une menace contre la paix régionale. Parce que quand on regarde la prévalence des miliciens Imbonerakure qui se comportent exactement comme se comportaient les miliciens Interahamwe au Rwanda en 1994, et ceci ne peut pas laisser la région ou le monde se questionner. Et aussi le discours de la haine qui prévaut. Nous avons des gouvernants, des responsables au sein du gouvernement qui entretiennent un discours négationniste à l'égard du génocide d'un pays qui s'est produit dans un pays voisin, au Rwanda. Ce n'est pas n'importe qui, c'était le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabé, en 2016. C'était aussi l'actuel chef de la diplomatie burundaise, Albert Shingiro, qui va visiter son homologue belge, probablement la semaine prochaine, qui, devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, prononcer un discours négationniste à l'égard du génocide des Tutsis du Rwanda. Ce genre de responsable qui gère un pays en crise, qui a connu des crises identitaires dans la région, également en proie des crises identitaires, je ne vois pas pourquoi les capitales européennes pourraient avoir un intérêt à se précipiter à renormaliser des relations, parce que ce qui est une situation tendue dans la région ne peut pas laisser le reste du monde de côté.
Bernard Minguin.
Oui, je voudrais ajouter une précision qui pour moi est fondamentale pour la compréhension de la situation dans la région des Grands Lacs. Je crois que le véritable affrontement dans la région des Grands Lacs aujourd'hui, que ce soit dans les Kivus, au Burundi et tout autour, y compris dans les attaques contre le Rwanda, c'est un affrontement idéologique postérieur au conflit armé majeur des années 90. Et cet affrontement idéologique oppose les tenants d'une tribalisation de la vie sociale où on restaure des dynamiques Hutu, Tutsi, les Babembe, les Banyamulenge que l'on accuse, que l'on détruit à Minembwe. Donc il y a un groupe ou un mouvement qui se développe pour mettre en avant ce critère-là. Et il y a un autre mouvement dans lequel je me sens beaucoup mieux qui, au contraire, prend pour critère l'appartenance par la nationalité à un État et l'exercice des droits de citoyen au sein de cet État. Et donc, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est l'affrontement frontal entre ces mouvements qui va se passer par voie diplomatique, par voie politique, par voie médiatique. Et évidemment, c'est très, très difficile de décoder cela d'un point de vue belge. Mais je pense qu'il faut avoir l'humilité de prendre le temps de faire cette analyse pour comprendre les enjeux. Et de ce point de vue-là, le Burundi ne peut pas rester un chancre dans une approche globale de la sous-région.
Une dernière question, Maître Nchimirimana, ce n'est pas moi qui le prétends, c'est le Bureau des Nations Unies pour les réfugiés qui dit que, en fait, les réfugiés du Burundi sont en train de tomber dans l'oubli, que c'est la crise des réfugiés la plus sous-financée dans le monde. Dans ces conditions-là, est-ce que vous vous dites, nous sommes les oubliés de l'histoire, le monde se détourne de nous?
Nous sommes très préoccupés, d'ailleurs. Les réfugiés, les communautés qui se trouvent dans les pays de la région ne cessent de crier au secours. Et d'ailleurs, ce qui est encore inquiétant, c'est qu'on voit jusqu'à présent qu'au lieu que des États comme la Tanzanie, dont je citais tantôt, essayent d'améliorer la situation des réfugiés, elle fait tout pour les emprisonner au sein des camps. Et normalement, l'État qui a reçu les réfugiés, en collaboration avec l'Agence des Nations Unies, le HCR, doivent tout faire pour explorer des pistes pour faciliter l'accession des réfugiés à des services de base, aux revenus, à l'emploi, comme ça se fait ailleurs. Mais ce que nous voyons dans la région est contraire aux principes même et qui gouverne la gestion de ce domaine par le HCR.
Merci en tout cas de ce témoignage et de cette mise en perspective. Il est vrai qu'il faut bien reconnaître que même médiatiquement, vous n'êtes pas au point de mire récurrent de notre attention. Merci donc d'être venu réattirer notre attention, y compris bien sûr avec ces appels lancés vis-à-vis de notre diplomate et vis-à-vis de la ministre des Affaires étrangères pour savoir en quoi elle conditionnera ou non l'action diplomatique de la Belgique à des vrais résultats concrets sur le terrain. Merci messieurs d'être venus au bout du jour.
Merci bien.
Merci beaucoup.